Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour, il faudrait que tout le monde en parle sur les ondes de CFAC 88.3. On accueille le documentariste, producteur et scénariste de la bataille de Saint-Léonard qui paraîtra ce vendredi. Félix Rose, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, on te reçoit, le film sort ce vendredi. Peux-tu nous parler du choix, du sujet? Peux-tu nous parler de ce que c'est la bataille de Saint-Léonard? Parce que malheureusement, ça fait partie des événements qu'on tend à peut-être un peu oublier dans l'histoire québécoise.
Oui, justement, c'est quelque chose dont on devrait parler parce que c'est ça qui mène à la loi 101. Puis mm-hmm. La loi 101, on en parle tout le temps, mais on ne sait pas d'où ça vient et d'où ça sort. Pourquoi on a fait ça? Puis pour savoir ça, il faut revenir à la fin des années 60, à Montréal. Tu avais une ville qui s'appelait Saint-Léonard. Avant, c'était juste des chats. Mais tu as un entrepreneur qui s'appelle Mario Baronet, un Italien, qui construit une ville. Puis il amène une partie de la communauté italienne là. Et les Italiens qui arrivent au Québec, ils comprennent que pour avoir accès au meilleur job, parce que les Italiens sont encore plus pauvres que les Québécois, il faut parler l'anglais. Donc ils demandent des écoles bilingues. On leur accorde. Mais après quelques années, les élèves, on réalise qu'ils se font angliciser au niveau des francophones. Les parents francophones ne sont pas contents. Puis ils font une élection scolaire à Saint-Léonard pour mettre fin aux écoles bilingues, puis ils gagnent. Puis là, au début, tu penses que c'est juste une guerre de clochers, mais là, ça prend des proportions inimaginables où là, les Italiens ne sont pas contents et ils décident de faire des écoles dans clandestines, il y a des manifestations, et le gouvernement se retrouve avec une patate chaude et il doit faire de quoi? Puis là, il décide de faire une loi pour le libre choix, dire on devrait choisir, chacun choisit la langue d'enseignement. Mais là, le Québec est à feu et à sang. Les francophones sont très fâchés de ça parce qu'ils ont peur de se faire assimiler si tous les nouveaux arrivants choisissent l'anglais. Et il y a même une émeute à Saint-Léonard qui fait le tour du monde. On se bat dans les rues à coups de bâton de baseball. On lance des briques. On fait une loi qui s'appelle la loi de l'émeute. C'est jamais vu, ça n'a jamais été évoqué depuis des siècles. Comme quoi que tous ceux qui sont dans les rues sont accusés de sédition. La sédition, c'est quoi? Vouloir renverser le gouvernement. Dont le porte-parole des francophones, Raymond Lemieux, se retrouve accusé de sédition, même si c'est un pacifique. Donc, ça prend une tournure qu'on n'aurait jamais pensée et ça se règle ultimement avec la loi 101 pour régler les tensions linguistiques qui ont perduré pendant quasiment une décennie.
Tu as mentionné leurs noms, Mario Baronne, Raymond Lemieux, qui sont les protagonistes principaux de ton documentaire. Comment tu dirais que leur combat a été mené de part et d'autre?
Mais parce que c'est deux conceptions qui s'affrontent. Lemieux, c'est un anglophone. Son père est franco-américain, sa mère est d'origine irlandaise. Et lui, il réalise rapidement que la langue, les francophones, c'est la langue, le français, c'est la langue des pauvres, l'anglais, c'est la langue des riches. Puis là, il voit une profonde injustice, donc il devient francophile. Puis lui, il décide justement d'empêcher les écoles anglaises. Tandis que Mario Baronet, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est le meilleur pour ses enfants. Puis l'anglais était un incontournable à l'époque. Mais moi, au lieu de parler juste de ces deux hommes-là qui s'affrontent, je voulais incarner le débat à travers les familles. Parce que ces deux familles, puis montrer que ces deux hommes avec des convictions, mais eux, ils ont choisi ça. Ils ont choisi de se battre. Mais pas forcément leurs enfants et leurs épouses. Puis eux se retrouvent malgré eux dans ce combat-là. Les baronnets, ils sont victimes d'attentats à la bombe chez eux. Lemieux, ça brise la famille. Donc, montrer les conséquences ces familles aussi, que ça soit incarné.
Ben justement, tu as parlé, entre autres, avec ces membres-là de la famille qui sont encore là aujourd'hui. Puis je pense que c'était l'épouse de M. Lemieux qui, elle, voulait... En tout cas, pour revenir souvent sur les événements, ou en tout cas, qui était la plus encore victime de ces événements-là. Comment ça s'est fait, la rencontre avec ces personnes-là?
Mais moi, j'avais rencontré Lemieux avant son décès.
Vrai, il est aussi dans le documentaire, c'est vrai.
Exactement, parce que moi, quand je faisais Les Roses, qui est sur mon histoire familiale, là, je suis fils de Paul Rose, mon père était militant à Saint-Léonard. Puis là, quand je me suis aperçu de cette crise-là, puis je me suis dit, on ne m'a jamais raconté ça, je suis allé en rencontre de Raymond Lemieux. Puis Raymond Lemieux était comme une figure méconnue, mais je me suis dit, il mérite son propre film. J'ai fait une entrevue, puis quand il est décédé, pas un média en a parlé. Pourtant, c'est un peu grâce à lui que la loi 101. Donc, à travers lui, j'ai rencontré sa famille, puis ça a été des années, ça a pris 7 ans à faire le film. Je me suis lié d'amitié à cette famille-là, Mais je voulais pas raconter juste les francophones, parce que je voulais pas que les Italiens soient les méchants du film, absolument pas. Donc, je suis allé à la rencontre de la famille italienne qui ont construit la ville, puis je me suis lié vraiment d'amitié, une belle histoire d'amitié avec Mauro Baroni, qui est le fils. Puis, tu sais, au début, moi, avec mon nom, Félix Rose, fils d'un Félix, je me dis, tabarouette, les Italiens vont capoter. Ouais. Puis là, finalement, je l'appelle, puis là, j'ai dit, là, je lui parle de projet, super emballé, ouais. Puis... Il dit, tu sais-tu Chiqui, Félix Rose, c'est Paul Rose? Puis là, silence.
Oh là là.
Je me suis dit, ça y est, c'est fait.
Ça se fera plus.
C'est mort. Puis finalement, il fait comme, oh ouais! Puis là, il pose plein de questions. Il pose des questions, puis là, il est comme curieux. Puis ouais. À un moment donné, il voit, il désamorce. Il dit, tu sais, Félix, mon père aussi était controversé à l'époque. Puis ton père, toi, c'est toi. Mm-hmm. Puis on va se rencontrer. Puis ça a été vraiment, il me donnait accès à sa famille. Puis ils ont tellement été généreux avec toi. Quand les gens sont généreux, tu es à la hauteur de leur confiance. Oui. Mm. Donc c'est pour ça que je voulais raconter les histoires avec pas de bons et de méchants, montrer que les deux ont un peu raison, dans le fond.
Mm-hmm. Ryan?
À propos de ça, comme vous le dites, là, vous avez essayé vraiment de dégager de l'authenticité dans le documentaire. Mais il y a quand même un peu de fiction dans celui-là. En général, je pense qu'un bon documentaire, pour moi, c'est un qui arrive à un peu bien jauger entre les deux. Comment vous vous êtes fixé cette limite entre fiction et authenticité? Et pourquoi ce choix, ce degré-là?
Ben moi, c'est sûr que je fais du documentaire, mais je fais du documentaire grand public, mm-hmm. où je reprends des codes de la fiction. Parce mm-hmm. que tu as des archétypes, tu as des personnages forts, tu as ouais, des péripéties et tout ça. Parce que moi, comment je me vois, tu sais, moi, j'ai déjà enseigné avant, puis dans mon désir de transmission, c'est je veux que tout le monde puisse le regarder. Parce que si tu fais juste des documentaires trop informatifs, à un moment donné, c'est plus difficile que quand c'est un documentaire incarné où tu t'attaches au personnage. Donc, je le fais, mais c'est très important pour moi qu'il y ait un degré d'information parce que à travers ces deux familles-là, puis ces personnages attachants, je veux que le monde comprenne l'époque, comprenne l'effervescence de l'époque, comprendre d'où ça vient, les enjeux linguistiques. Parce que moi, mon intention de réaliste, c'est un peu que, vu qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des nouveaux arrivants, l'intégration du français, les mêmes thématiques que dans le film, que le passé éclaire le présent. Mm-hmm. Puis c'est ça que j'essaie de faire, mais tu sais, ça reste... C'est un film où je peux pas tout dire. Ça reste un film où je veux que le monde embarque dedans. Mm-hmm. Puis j'espère qu'après, les gens vont vouloir faire leurs recherches pour en savoir plus puis en connaître plus.
Bah, à propos de cet écho qu'on a, même actuellement dans le contexte d'identité du Québec qui est assez diversifié dans la culture autre, comment vous pensez que le film, il va susciter plus ou moins une réponse ou forcer les gens à l'interprétation dans ça?
Mais moi, je pense que souvent, l'idée, c'est quand tu racontes des épisodes du passé de même, c'est éviter de répéter les mêmes erreurs. Mm-hmm. Puis moi, j'aimerais pas qu'on revive un Salon d'Or 2.0. Je pense que l'erreur de l'époque, c'est une erreur de communication. Tu sais, les francophones ont perçu que les Italiens les rejetaient. Mais c'était pas vraiment le cas. C'est eux, ils voulaient les écoles français-anglais. C'était pas un rejet des francophones, mais ça a été perçu comme ça. Mm-hmm. Et les Italiens ont perçu ça comme si on leur envoyait les droits acquis. Parce qu'il n'y avait pas de loi 101 à l'époque. Tu pouvais faire qu'est-ce que tu veux, tu pouvais envoyer les enfants à l'école que tu veux. Eux, ils arrivent de pays où il y a eu la répression, il y a eu la guerre. Là, on a l'impression qu'on veut leur enlever ces droits-là, puis qu'ils ne comprennent pas forcément le contexte politique ici. Ils viennent d'arriver, on ne leur a pas appris. Et tu as un gouvernement qui veut régler ça tellement vite qu'au lieu qu'il y ait une commission d'enquête, qu'on attend des résultats, qu'il y ait un dialogue.
C'est bâclé.
Ouais. Ils font vraiment vite. Puis c'est là le fait qu'ils décident de faire une loi pour le libre choix sans consultation, sans le vouloir. Il fait que la communauté italienne devient le bouc émissaire. Ils montent les francophones contre les Italiens parce que là, les francophones disent que c'est la faute des Italiens. Si là, il y a une loi pour le libre choix, puis là, c'est là que ça devient violent. Puis c'est là que le monde se bat dans les rues. Donc, je veux pas qu'on revive ça. Donc, je pense que c'est un peu ça, les leçons de Saint-Léonard.
Mais ça a plusieurs occasions. Aujourd'hui, on le voit qu'il y a beaucoup de parallèles à faire à ce qui était à l'époque puis ce qui est aujourd'hui. Marie?
Alors, justement, vous avez eu le visionnement de presse du film le 1er octobre dernier. Premièrement, comment ça s'est déroulé? Et puis, en sortant de la salle de cinéma, quelle réflexion est-ce que vous espérez que le public retire de ce film, justement faisant écho au présent?
Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Là, on a eu la première montréalaise, on a eu une première à Québec. Ce soir, c'est la première de Sherbrooke, la maison de cinéma. Super. Et la réaction est très, très bonne, même meilleure que mon dernier film. Les gens, ils se lèvent, ils pleurent. Ça suscite toutes sortes d'émotions. Mm-hmm. Puis moi, je pense que qu'est-ce qui retire là-dedans, c'est un profond sentiment d'injustice. Comme quoi, que, comment ça, que cette histoire-là, on ne me l'a pas racontée. Pour comment ça, ces gens-là, comme Raymond Lemieux et Mario Baronnet, on ne m'a pas appris ça. Je ne connais pas ces noms-là. Comment ça, ils sont tombés dans l'oubli? Donc, j'ai l'impression qu'à date, les questions portent beaucoup là-dessus. Et justement, ils disent, mais pourquoi on nous parle tout le temps de la loi 101, mais pourquoi on ne nous dit pas d'où ça part? Puis à date, c'est le constat, c'est ça que je reçois. Et je vois que les personnes âgées, ça les ramène à cette époque-là parce qu'ils l'ont connu. Et les jeunes comme vous, ça amène une réflexion parce que les jeunes, vous n'avez pas forcément le même rapport à la langue que les personnes plus âgées. Vous n'êtes pas, pas décomplexé par rapport à l'anglais, parce que avant les personnes âgées, l'anglais, c'était un peu la langue de l'oppresseur. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, le fait que les jeunes comprennent ça, je pense que ça amène une piste de compréhension de pourquoi il y a une loi 101 et pourquoi il ne faudrait pas qu'on revienne à ça non plus. On ne veut pas revenir à cette situation-là.
Même au-delà de ça, ça intensifie, ça a un peu envie de créer une curiosité de la part des jeunes sur quelle autre partie de l'histoire on a manqué, que ça soit scolairement ou autre. C'est un peu une envie de rechercher des réponses autre part que dans ce genre de thème et sujet aussi.
Oui, parce que notre histoire est vaste, mais il y a tellement de pans méconnus. C'est toujours les mêmes épisodes qu'on raconte. Donc, pour ça, je pense que c'est un peu un des travaux d'un documentariste, de trouver ces éléments-là et les faire sortir aujourd'hui. Puis c'est pour ça que moi, je travaille... Tu sais, le film, c'est 7 ans où j'ai fouillé dans les archives et tout ça. Pour qu'on puisse découvrir ce pan méconnu-là.
Puis c'est ça, comme vous le dites, c'est des personnages, c'est ça qu'on a malheureusement un peu oublié collectivement, puis... Il y avait des extraits de téléjournaux, ils étaient connus, on parlait d'eux autres. Puis, en fait, si ça peut vous intéresser, auditeurs, c'est ce soir à la Maison du cinéma, il y aura une projection.
Il ne reste plus de billets.
Mais
ça sort le 11 octobre, vendredi, à la Maison du cinéma.
Donc, ça sera un rendez-vous ce vendredi plutôt, mais ça vaudra quand même la peine d'aller voir la bataille de Saint-Léonard. Félix Rose, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute de Faudrait que tout le monde en parle sur les ondes de CFA 88.3. On se dit à la semaine prochaine. Salut.
Salut.